Jean-François Figeac, bonjour.
Bonjour, Christophe Lucet.
Merci d'être venu nous rejoindre à la librairie Mola pour évoquer votre dernier bouquin, qui est en fait aussi le premier, hein, votre premier livre, « La France et l'Orient, de Louis XV à Emmanuel Macron ». Grande fresque historique sur les relations entre la France et l'Orient. Alors vous connaissez bien le sujet, puisque vous êtes un jeune historien qui avait consacré une thèse à ce sujet, hein, une thèse dont le titre exact d'ailleurs est donc la question d'Orient dans l'opinion publique française. Donc il s'agit à la fois de l'histoire des relations entre la France et l'Orient, on dira tout à l'heure ce que représente l'Orient, et puis aussi, c'est aussi une histoire de l'opinion publique française à la lumière de ce qu'on a beaucoup appelé en France la question d'Orient. Voilà. Donc Jean-François Figeac, d'abord, peut-être un mot sur l'intérêt que vous avez porté à ce sujet. Ça fait longtemps que vous vous intéressez à cette dimension de la politique française et à cette... Vous avez vous-même voyagé en Orient. Comment vous est venu le goût pour ce sujet?
Bonjour Christophe Lucet et merci à la librairie Mola et merci à vous de me permettre de discuter autour de mon livre. Alors c'est vrai que, bon, faisons un petit peu d'égo histoire pour commencer, c'est vrai que c'est une histoire de 10 ans finalement que j'ai refermé l'an dernier en soutenant ma thèse, puisque j'ai commencé, alors un peu par hasard, à m'intéresser à l'Orient à l'occasion d'un programme de classe préparatoire de Cagnes, puis ensuite bon, j'ai décidé d'approfondir le sujet quand j'ai fait un master d'histoire, d'abord à Bordeaux, ensuite à Paris. Ce que je cherchais en fait à voir, c'était l'interaction entre l'opinion publique et la politique étrangère française, puisque, bon, il y a beaucoup d'ouvrages sur l'Orient dans le domaine des relations internationales, alors que ce soit au niveau de l'implication de la France, qu'entre les rapports entre la France et d'autres impérialismes. Et ce qui m'a davantage intéressé dans ma thèse, c'est comment l'opinion publique influence au cours des différentes crises d'Orient, hein, au 19e siècle, hein, de l'expédition d'Égypte jusqu'à l'expédition du Liban en soutien aux Maronites, comment cette opinion publique influence les choix de politique extérieure et comment, en retour, la politique extérieure est l'objet d'une politisation en France. Alors, ça m'a amené consulter surtout des archives françaises, hein, pour être honnête avec vous, essentiellement de la presse, hein, beaucoup de brochures, énormément de brochures. Dans ma thèse, je fais notamment une étude quantitative, parce qu'il y a plusieurs milliers de brochures autour de l'Empire ottoman, la porte, la sublime porte, comme on disait à l'époque, donc sur ce sujet-là. La correspondance diplomatique, et ça m'a amené en effet à aller sur le terrain, hein, en Turquie, notamment à Istanbul, pour voir toutes les nuances qu'il pouvait y avoir dans cet Orient ottoman. Un Orient ottoman qui était finalement au 19e siècle et qu'il est encore aujourd'hui, ne serait-ce que d'un point de vue géographique, à cheval entre deux continents, l'Europe et l'Asie, et ça se matérialise par des influences multiples.
Alors peut-être faut-il bien expliquer à nos auditeurs ce que vous entendez par l'Orient et ce qu'on a toujours entendu par l'Orient. C'est-à-dire que il y a ce qu'on appelle l'Orient lato sensu au sens large, il y a l'Orient stricto sensu qui peut être une toute petite partie de ce qu'on imagine être l'Orient. Pour vous, lorsque vous parlez de l'Orient, est-ce que vous avez dans votre tête un espace géographique précis, ou est-ce que c'est cette réalité un peu gazeuse qui peut aller selon les sujets, je dirais d'Alger jusqu'à Téhéran et d'Alexandrie ou du Caire jusqu'à Istanbul ou plus loin, ou est-ce que c'est uniquement, par exemple, ces zones qui ont le plus intéressé la France? Je pense par exemple à la France mandataire entre 1920 et 1940, qui comprenait le Liban et la Syrie, et puis autour, donc, Israël, la Jordanie, voilà, un petit peu d'Égypte. Voilà. Quand vous parlez d'Orient, évidemment, est-ce que ça dépend vraiment des époques, des époques dont on parle, ou est-ce que ça dépend aussi des acteurs, des différents acteurs, lorsqu'ils ont affaire à l'Orient, qu'ils soient négociants, qu'ils soient diplomates, qu'ils soient militaires, qu'ils soient archéologues, qu'ils soient voilà, religieux, voilà, tous ces Français qui d'une manière ou d'une autre ont affaire à l'Orient et depuis fort longtemps, et qui ont des relations avec telle ou telle partie de cet immense ensemble.
Alors vous avez tout à fait raison, hein. L'Orient, ça reste un concept extrêmement subjectif et assez flou. ne serait-ce que parce que c'est un concept qui n'est pas produit par les habitants de cette région eux-mêmes. C'est un concept européen. On se positionne par rapport à l'Orient. Alors, en ce qui me concerne, bien sûr, il a fallu délimiter géographiquement, et le sujet, toute délimitation est forcément arbitraire. Parce que Orient, ça peut même désigner jusqu'à l'extrême-Orient, hein, jusqu'à la Chine et ce qu'on appelait au 19e siècle et durant la colonisation l'Indochine, l'Asie du Sud-Est. Alors, en ce qui me concerne, j'ai décidé d'exclure de mon champ d'investigation la partie indienne de l'Orient et l'extrême-Orient. Parce que pour moi, historiquement, c'est une zone d'influence plus britannique que française. Et le tournant en la matière, c'est la guerre de Sept Ans. La guerre de Sept Ans, durant laquelle les Français donc perdent à la bataille de Plassey contre les Britanniques et par le traité de Paris rendent en 1763 quasiment l'essentiel de leur possession indienne, mis à part quelques comptoirs.
Les fameux comptoirs Pondichéry, Karikal,
Chandernagore,
voilà, qui sont quelques petites pastilles le long de la côte indienne. Vous les évoquez d'ailleurs dans votre livre, vous les évoquez. Donc votre Orient va quand même à peu près jusque-là, jusqu'à la côte de l'Inde. Mais en réalité, vous nous parlez essentiellement de ce Moyen-Orient, Alors c'est compliqué parce qu'en France on parle de Moyen-Orient ou de Proche-Orient ou d'Orient tout court. On parle aussi de Levant, ce qui est beaucoup plus joli finalement, le Levant, l'endroit où le soleil se lève. Donc il y a toutes sortes d'expressions finalement qui sont employées presque au gré des humeurs ou au gré des circonstances.
Tout à fait. Alors l'expression de Moyen-Orient et de Proche-Orient sont plus des expressions qui nous viennent des Anglo-Saxons. L'expression de Moyen-Orient, ça vient du Middle East, de l'amiral Mahan, qui était un amiral américain, qui théorise la notion de Moyen-Orient en 1902. Le Proche-Orient, c'est un archéologue britannique du nom d'Hogarth qui emploie pour la première fois l'expression à la même période. En ce qui concerne le Levant, là, il s'agit d'une expression typiquement française, une expression qui est vraiment dans le champ lexical français. Et c'est pour ça que je me suis arrêté là. En fait, mon champ d'investigation, c'est ce qui correspond en fait à l'ancien Levant. Le Levant qui était employé par les voyageurs, qui était l'expression employée par les voyageurs, par les diplomates, au XVIIIe siècle et qui a continué à être employé au XIXe siècle, c'est-à-dire une région qui part au nord de Constantinople, qui passe par
l'Anatolie,
tout à fait, le plateau anatolien, Smyrne, à l'extrémité occidentale de ce plateau anatolien, Izmir aujourd'hui, qui passe ensuite plus au sud par la Syrie, le Liban, la Terre Sainte, et qui va jusqu'au sud.
Et jusqu'à l'embouchure du Nil, d'une certaine façon.
Voilà, jusqu'à l'embouchure du Nil, exactement, jusqu'au delta du Nil.
Donc géographiquement, c'est relativement restreint. Ça exclut totalement, évidemment, le Maghreb et le Mashrek, ça exclut toute la partie mésopotamienne, ça exclut aussi les plateaux iraniens, ça exclut, le grand sud de la péninsule arabique, Mais ce Levant, c'est finalement une zone d'intervention. Est-ce que c'est pas une notion qui nous vient directement des croisades?
Alors, tout à fait. C'est-à-dire que le Levant, en effet, il y a cet imaginaire dans le Levant, dans cette volonté de construire une diplomatie originale. Alors, comme je le montre dans mon livre, c'est pas si simple. C'est-à-dire qu'il y a des évolutions, il n'y a pas véritablement de diplomatie homogène au Levant. La diplomatie française évolue beaucoup en fonction des périodes. Mais c'est vrai qu'il y a, Alphonse Dupron, le grand historien, le montre très bien, un imaginaire de la croisade qui demeure et qui explique bien des choses dans la diplomatie française, notamment cette volonté de protéger les chrétiens d'Orient, cette volonté également de protéger les lieux saints. Alors, face au sultan ottoman, garantir les droits des chrétiens d'Orient, face également à d'autres minorités musulmanes, peut-être qu'on en reparlera, mais notamment dans le cadre des affrontements entre les maronites et les druzes au Liban, et aussi face à des puissances rivales qui cherchent à concurrencer la France dans ce domaine. On peut penser, par exemple, à la Russie et à la rivalité entre les moines catholiques sont sous influence française et les moines orthodoxes sous influence russe, ce qui est une cause indirecte de la guerre de Crimée au milieu du 19e siècle. Et puis ensuite, c'est également à partir de la principalement à partir de la seconde moitié du 19e siècle, une rivalité aussi avec les missions protestantes, les missions des Britanniques et des Américains qui concurrencent de plus en plus cette influence française par la religion.
Alors bon, donc on voit à peu près, donc géographiquement, c'est un peu gazeux, mais enfin évidemment, vous vous intéressez beaucoup donc aux régions dont vous venez de parler, la Terre Sainte et ce qu'il y a autour, beaucoup quand même la Turquie actuelle, parce qu'évidemment l'Empire, puisque dans toute l'époque dont nous parlons, c'est-à-dire le 18e, le 19e, le 20e siècle, l'Empire ottoman, donc gouverné par Constantinople, par l'ancienne Byzance, par Constantinople, s'étend jusqu'en Égypte. Hein. Donc c'est un immense empire hein, qui prend en écharpe tout le Levant et avec lequel la France a des relations complexes. Alors peut-être ma question concerne justement la sublime porte, la porte, ce grand empire ottoman. On a depuis très longtemps, nous Français, donc des relations avec lui. Alors vous faites démarrer votre livre à Louis XV, mais en réalité les premières relations elles remontent au moins à François Ier, puisque François Ier, au début du XVIe siècle, signe ce qu'on appelle les premières capitulations avec Soliman le Magnifique, donc qui est le grand sultan de l'époque, pour permettre à la présence française, au commerce français, de commencer à s'intéresser à ces régions de façon sûre à travers une alliance qui sera une alliance finalement appelée à un certain avenir, même s'il va y avoir beaucoup de d'ambivalence et de variations et de ruptures aussi.
Oui, alors en effet, François Ier est finalement le premier à ouvrir la possibilité d'une alliance avec Soliman le Magnifique, dans un contexte géopolitique bien précis, hein, qui est l'affrontement européen avec Charles Quint. Et il y a très clairement un tournant à partir de son emprisonnement à la bataille de Pavie, Louise de Savoie, hein, qui est sur la régence du royaume, décide de commencer à négocier avec les Turcs. Et ces négociations finissent par aboutir par une alliance en 1535 et puis ensuite par une alliance militaire hein, qui va jusqu'à des opérations militaires communes. Hein. On peut penser notamment au siège de Nice en 1543.
Mais c'est une alliance de revers.
C'est une alliance de revers, exactement.
C'est-à-dire que c'est une alliance, en fait, elle a un but européen, c'est-à-dire c'est vraiment s'assurer le soutien du Grand Turc contre nos adversaires de l'Europe, hein, du centre de l'Europe.
Exactement.
En l'occurrence, donc donc Charles Quint, vous l'avez dit, et puis ensuite, ça sera les Habsbourg, ça sera...
C'est ça, exactement. C'est une alliance de revers qui se perpétue, c'est une logique géopolitique qui reste une tendance lourde sur la période, mais qui n'est pas réellement formulée. C'est plus un ensemble de pratiques, et surtout, il n'y a pas de cohérence, c'est pour ça que je fais commencer ma réflexion au milieu du 18e siècle. Si vous voulez, il n'y a pas de cohérence forcément dans la politique du roi de France. Le roi de France peut très bien s'allier ponctuellement avec les Ottomans tout en maniant la rhétorique de la croisade. C'est particulièrement le cas sous Louis XIV. Louis XIV, il renouvelle les capitulations, mais en même temps, il refuse que le sultan fasse le siège de Vienne en 1683. Hein, il s'oppose à cela. Et pourtant, Vienne, tenue par les Habsbourg, donc en théorie, ses adversaires.
Oui, donc il a une vision quand même européenne, Louis XIV. Il se dit quand même, je peux être allié au Grand Turc, mais c'est quand même embêtant que le Grand Turc vienne jusqu'aux portes de l'Europe centrale. Il vient quand même trop près de chez nous.
Il a une vision européenne, il a une vision chrétienne, héritée des croisades. En tant que roi très chrétien, il considère que, finalement, le Grand Turc ne peut pas aller trop loin.
Parce que ce que vous dites, c'est que les croisades, finalement, elles ne sont pas si loin. C'est-à-dire que la dernière croisade, elle remonte au début du XIVe siècle. Donc on n'est pas... Il y a deux, trois siècles d'écart, mais l'imaginaire de la croisade, la protection des lieux saints, tout ça reste... Et puis, donc, les heurts qui ont opposé les croisés français aux aux troupes islamiques des différents leaders. Donc il y a eu quand même beaucoup de sang versé, beaucoup de monstres. Donc ça, tout ça a laissé des traces et aussi un imaginaire qui perdure.
Il reste un imaginaire qui perdure et qui se matérialise sous Louis XIV. Géraud Poumarède, qui est historien à Bordeaux, l'a très bien montré. Il reste un imaginaire de la croisade, alors qu'il reste essentiellement sur le plan rhétorique, c'est-à-dire que bien sûr, logistiquement et géopolitiquement, l'idée de faire une croisade contre Constantinople semblait illusoire. Mais, par exemple, sous Louis XIV, mandate un diplomate pour réaliser une mission secrète pour faire des repérages et éventuellement...
Pour préparer éventuellement une opération militaire.
C'est ça.
Donc, qui n'aura pas lieu. Mais
qui n'aura pas lieu. Donc... Voilà, il y a un problème de cohérence d'ensemble dans cette politique.
Donc il n'y a qu'à partir de Louis XV qu'on va voir une cohérence, c'est ça?
Voilà, et le tournant, véritablement, c'est Vergennes. Vergennes, d'abord, en tant...
Alors, Vergennes, c'est le ministre des Affaires étrangères de Louis XV. Hein.
Alors, il est d'abord ambassadeur à Constantinople sous Louis XV, et il devient ministre des Affaires étrangères pendant 13 ans, hein, de 1774 à 1787.
Donc, plutôt sous Louis XVI, mais voilà. En fait, il a commencé sa carrière de diplomate sous Louis XV, et donc, en fait, le top de sa carrière, j'ose dire, c'est à la fin, c'est le règne de Louis XVI.
Exactement, hein. Et Vergennes, en tant qu'ambassadeur à Constantinople, prend conscience que l'Empire ottoman est alors en recul.
En difficulté
face à la Russie, notamment, qui, l'impérialisme russe, hein, à partir de la fin du XVIIe siècle, qui lorgne sur la mer Noire.
Lorgne sur les mers chaudes.
Et sur les mers chaudes, qui cherche un débouché sur les détroits, le détroit du Bosphore et des Dardanelles. Les Russes sont de plus en plus pressants. Et il y a une guerre, alors il y a plusieurs guerres entre l'Empire ottoman et la Russie, mais une en particulier en 1768-74, hein, la guerre russo-turque, qui se matérialise par une destruction de la flotte ottomane, et les Ottomans sont obligés de signer un traité en 1774, hein, le traité de Kutchuk-Kainarji, qui permet aux Russes d'accroître leur influence dans l'Empire ottoman et d'accroître leur influence autour de la mer Noire.
Alors c'est très très actuel cette histoire, parce qu'évidemment on est en pleine guerre d'Ukraine, où on voit que les Russes occupent aujourd'hui une partie de l'Ukraine qui est en fait la partie limitrophe de la mer, le nord de la mer Noire. À l'époque dont vous nous parlez, la Crimée par exemple est plutôt une possession ottomane. Il y a des Tatars de Crimée qui sont plutôt des Ottomans, enfin qui sont des sujets ottomans. Donc il y a quand même de tout temps, enfin au moins depuis deux siècles, cette rivalité entre l'Empire russe naissant avec la fameuse Catherine II, hein, qui voilà, et puis les sultans qui essayent de défendre leur position en mer Noire, qu'ils considèrent d'une certaine façon comme leur Mare Nostrum, quoi, cette mer Noire, c'est le pont Euxin des Grecs. Pour les Ottomans, c'est leur voilà, c'est une mer intérieure qu'ils souhaitent contrôler.
Oui, tout à fait. Cette rivalité, elle parcourt donc à partir de Catherine II, hein, et elle va jusqu'à aujourd'hui. Hein, cette rivalité autour de la mer Noire. Sous Catherine II, il y a la volonté de récupérer Constantinople parce que les Russes s'estiment finalement les héritiers de l'Empire byzantin. Il y a cette idée finalement de restaurer l'Empire byzantin qui est très présente, qui est présente ensuite, hein, tout au long du XIXe siècle, hein, que ce soit durant la guerre d'indépendance grecque, hein, où on défend finalement les Grecs orthodoxes pour ensuite essayer de restaurer un empire byzantin orthodoxe sur les décombres de l'Empire ottoman. Il y a également cette idée-là durant la guerre de Crimée. Et pour répondre à votre précédente question sur Vergennes, Vergennes a donc à conscience de cette montée de la Russie, montée en puissance de la Russie, et cherche finalement à, alors il le fait dans ses mémoires notamment, à finalement théoriser un maintien de l'Empire ottoman, une sauvegarde de l'Empire ottoman, et donc une alliance pérenne avec l'Empire ottoman pour sauvegarder l'équilibre européen.
Alors, précisément, puisqu'on parle d'Empire ottoman et des ambivalences et des ruptures ou des contradictions de la politique française en Orient, c'est typiquement le cas avec l'Empire ottoman que Vergennes, donc, lui, souhaite soutenir pour faire pièce à l'avancée des Russes, alors que finalement un siècle plus tard, la France et l'Angleterre vont participer plutôt au démantèlement de l'Empire ottoman pour s'y tailler des mandats, en particulier donc en Syrie, en Irak en ce qui concerne les Anglais, en Jordanie, avec les fameux accords Sykes-Picot de 1916. Donc là il y a quand même un changement de pied vis-à-vis de la porte. Évidemment, alors entre les deux, il y a la Première Guerre mondiale où l'Empire ottoman va être contre nous. Mais il y a quand même une variation très forte et une ambivalence très forte dans la politique française vis-à-vis de la porte, justement.
Tout à fait. C'est là qu'on voit que quand on parle, par exemple, de politique orientale en essentialisant, il n'y a pas de politique orientale qui existe de tout temps. La politique orientale française évolue beaucoup. Et en effet, vous avez tout à fait raison. Finalement, l'histoire des relations entre la France et l'Empire ottoman au cours du 19e siècle, c'est l'histoire d'une ligne de crête assez étroite entre l'influence, qui est, finalement, la politique d'influence, qui est une politique qui peut exister dans d'autres régions sans aller jusqu'à l'impérialisme, et la politique impérialiste. Et ce basculement, on le voit dans la seconde moitié du 19e siècle, à partir de la fin de la guerre de Crimée. Que se passe-t-il à la fin de la guerre de Crimée ? L'Empire ottoman rentre donc est sauvé de la Russie.
Il faut rappeler que la guerre de Crimée, donc c'est une alliance anglo-franco-ottomane contre la Russie.
C'est ça.
Et avec le fameux siège de Sébastopol en 1855 ou 56, la prise de la tour de Malakoff en 1855. Malakoff d'ailleurs qui est devenue une commune française de la banlieue parisienne. C'est une allusion directe à la guerre de Crimée. Les habitants de Vanves-Malakoff doivent le savoir. Voilà. Et donc cette guerre de Crimée est très importante.
Tout à fait. Alors Malakoff, oui, c'est parce que on avait installé à l'issue de la prise de la tour Malakoff à la fin de la guerre de Crimée une tour Malakoff qui ressemblait alors qui avait une architecture à la fois orthodoxe et chinoise. Ça fait des styles très architecturaux, très mêlés, un peu orientalistes.
À Paris,
et,
donc.
À Paris, oui. Dans la plaine de Vanves, c'était la commune de Vanves à l'époque. Et autour de cette tour Malakoff, on avait installé tout un parc d'attractions où l'élite française avait l'habitude d'aller. Ce parc a été ensuite détruit lors de la guerre de 1870, il en est resté en effet le nom de Malakoff. Et c'est vrai que ça montre cette influence de la guerre de Crimée à la société française. La guerre de Crimée qui a été un peu un conflit oublié, mais qui a imprégné, ne serait-ce que dans la toponymie, la société française.
Oui, la présence. Je me rappelle, mon père me disait qu'à Paris, dans les bistrots à Paris, vers 1900, lorsque le garçon de café tardait à venir, le type se levait et disait « Alors, ici, c'est comme à Sébastopol, on ne prend rien ». Parce que le siège de Sébastopol avait été très long, et donc quand le garçon n'arrivait pas, on disait « Ah, c'est comme à Sébastopol, on ne prend rien ».
Exactement.
C'était passé dans le langage courant.
Et donc c'est un conflit assez charnière, le conflit de la guerre de Crimée, qui se termine, alors bien entre guillemets, mais bon, au prix de plusieurs centaines de milliers de morts, qui se termine bien pour les franco-britanniques et les ottomans.
100 000 morts français.
100 000 morts français, exactement.
C'est énorme.
C'est ce qui est absolument énorme. Et alors, pas seulement de la guerre, mais aussi du froid, du choléra qui sévit, qui emporte le chef d'état-major, le maréchal de Saint-Arnaud. Donc, c'est un conflit qui est quand même marquant, qui est un succès géopolitique pour Napoléon III, mais qui, finalement, imprègne en grande partie la société française. Et l'Empire ottoman, à l'issue de ce conflit, intègre le Concert des Nations. Le Concert des Nations qui avait été défini lors du Congrès de Vienne en 1815. Lors du Congrès de Paris en 1856, l'Empire ottoman est à la table des négociations et devient vraiment reconnu juridiquement comme une puissance européenne à part entière. Mais la contrepartie à cela, c'est que l'Empire ottoman doit effectuer des réformes.
Il doit rendre des comptes, finalement. Il est un peu mis sous, il y a un peu une mise sous tutelle de l'Empire ottoman.
Exactement. Il y a une mise sous tutelle de l'Empire ottoman dès la fin de la guerre de Crimée par le firman qui est prononcé, promulgué par le
sultan. Le firman, c'est-à-dire le décret.
Promulgué par le sultan sous la pression des Français et des Britanniques, le Hati Humayun, qui est un décret qui permet l'égalité civile et devant l'impôt des musulmans et des chrétiens dans l'Empire ottoman. Et cette protection des chrétiens va être un moyen pour les Français et pour les Britanniques de s'immiscer progressivement dans les affaires de l'Empire ottoman. Alors s'immiscer par ce biais-là, mais s'immiscer aussi d'un point de vue économique. L'Empire ottoman est de plus en plus endetté et la dette va être aussi un moyen de créer une sorte d'impérialisme informel des Français et des Britanniques qui va se matérialiser notamment par la création en 1863 de la Banque impériale ottomane, qui est une banque à capitaux français et britanniques. Ouais. On retrouve les grands financiers, les grands argentiers de Napoléon III hein, dans les actionnaires, hein, les premiers actionnaires de cette banque.
Alors, vous parlez d'impérialisme. Alors, je voudrais vraiment vous poser la question à propos de la France en Orient, parce que c'est intéressant peut-être de comparer avec l'Angleterre, par exemple. L'Angleterre était un très, très grand empire. La France a eu deux empires, donc le second, mais le second qui se constitue au 19e siècle et au tournant du 20e siècle est plutôt un empire nord-africain, extrême-oriental. Mais s'agissant de l'Orient, alors, il y a le mandat sur le Liban et sur la Syrie entre 1920 et 1940. Mais est-ce qu'on peut parler stricto sensu d'un impérialisme français au Levant, ou est-ce qu'il ne faudrait pas nuancer ? C'est-à-dire, est-ce que vous parlez beaucoup, vous, de soft power, c'est-à-dire plutôt de politique d'influence, c'est-à-dire que la France, finalement, a des intérêts commerciaux, des intérêts culturels, des intérêts. Elle entretient des missions très, très importantes, des missions religieuses, des congrégations enseignantes. Voilà, il y a des missions archéologiques. Bon, il y a énormément de liens, etc. Et en même temps, on se demande s'il y a un véritable impérialisme. Alors, bon, vous dites qu'à propos de la mise sous tutelle de l'Empire ottoman, c'est une forme d'impérialisme, c'est incontestable. Mais est-ce qu'on peut parler, par exemple, au Levant, d'un impérialisme français, comme on parle d'un impérialisme britannique dans son grand empire ? Parce qu'il ne faut pas essayer de nuancer.
Tout à fait, vous avez tout à fait raison. Hein. D'ailleurs, c'est l'un des enjeux de mon ouvrage. Je remets un peu en cause l'idée qui a été défendue, notamment en son temps, par Edward Said, qui est finalement l'idée qui consiste à dire qu'il y a un impérialisme mécanique de la France qui se construit à partir de l'expédition d'Égypte. En réalité,
l'expédition d'Égypte de Bonaparte.
De Bonaparte, hein. Oui, en 1798.
1798-1801.
Hein. Exactement. La thèse d'Edward Said, c'est finalement, il y a dans la politique française, depuis l'expédition d'Égypte de Bonaparte, et même avant, un prurit impérialisme, exactement.
Bon, c'est vrai que l'expédition de Bonaparte, elle a un côté impérialiste.
Puisque
Bonaparte, en fait, dans son idée, enfin l'idée, il chemine en marchant, mais il a presque, à un moment donné, il envisage d'aller jusqu'à Constantinople, quand même.
Hein. Il envisage d'aller jusqu'à Constantinople. Après, il n'a pas réellement les moyens d'y aller, militaires d'y aller. Surtout, il y a plusieurs courants chez les militaires qui l'accompagnent. Il y en a. La majorité qui veulent en fait que l'Égypte soit une possession vraiment très provisoire, qui s'estiment qu'ils n'ont pas les moyens finalement de rester durablement en Égypte. Donc l'idée notamment de Kléber, c'est d'installer un souverain allié aux Français et de repartir. Ce qui n'est pas le cas alors de d'autres militaires, mais qui sont minoritaires et qui finalement échouent, comme Menou par exemple.
Il y en a un dont vous parlez pas, mais qui est le général Dumas, qui est le père d'Alexandre Dumas, qui commandait la cavalerie de Bonaparte, donc lors de l'expédition d'Égypte, et qui va finir par claquer la porte de l'expédition en allant dire à Bonaparte qu'il ne comprend pas son objectif, qu'il comprend pas ses objectifs en Égypte.
Tout à fait.
Donc il y avait quand même un certain flou dans cette expédition. Hein.
Il y a un certain flou. Alors c'est une expédition, bon, qui est le fruit.
Elle était anti-britannique surtout.
Voilà, c'est ça. Initialement, c'est ça. C'est la rivalité. En fait, si vous voulez,
c'est un impérialisme. Anti-impérialiste, c'est-à-dire qu'en fait, il s'agit en fait d'essayer de tailler des croupières à la Grande-Bretagne, qui est notre adversaire, en lui coupant la route des Indes. C'est ça.
Exactement. C'est vraiment l'idée à la base. C'est vraiment de couper la route du canal de Suez pour finalement couper cette colonne vertébrale de l'Empire britannique. Ça, c'est théorisé très bien par Talleyrand à la veille de l'expédition d'Égypte. Alors après, il y a d'autres causes qui sont pas d'ailleurs des causes politiques. Il y a beaucoup de causes culturelles. Il y a la fascination de plus en plus forte pour l'Égypte au cours du XVIIIe siècle, pour les mondes anciens. Il y a un goût pour l'archéologie qui est de plus en plus prononcé à partir du milieu du XVIIIe siècle. Et peut-être l'apport le plus important de l'expédition d'Égypte en France, c'est justement cette commission scientifique qui suit l'armée et qui va produire un ouvrage monumental, La destruction d'Égypte.
Bah, nous sommes en 2022, nous venons de fêter les 200 ans de la découverte des hiéroglyphes par Jean-François Champollion. D'ailleurs, ça m'a amusé parce que je me souviens que donc, le frère de Jean-François Champollion s'appelait Figeac.
Exactement.
Hein, j'ai pensé à vous, on l'appelle Jean-François, enfin Champollion l'Ancien ou Champollion Figeac.
Champollion voilà, était né à Figeac.
Qui, donc, qui était le professeur de son frère et qui a beaucoup eu un rôle énorme pour soutenir les efforts de son frère dans la découverte, la redécouverte plutôt des hiéroglyphes. Voilà, donc nous sommes juste 200 ans après. Évidemment, l'histoire des redécouvertes des hiéroglyphes est étroitement liée à cette forme, j'allais dire, d'impérialisme soft, plutôt de cette diplomatie d'influence à forte teneur culturelle et ce véritable intérêt quand même pour les mondes du Levant à travers l'archéologie, les innombrables missions archéologiques qui se sont développées, que ce soit en Égypte, que ce soit en Terre Sainte, que ce soit en Turquie. Et puis aussi tout cet orientalisme des artistes et des voyageurs qui ont pour cette région un intérêt. On ne cite pas tous les écrivains français qui ont fait ce qu'on appelle le voyage en Orient, de Chateaubriand à Nerval, à Flaubert, etc., etc. Il y a un attrait profond quand même pour cette région. Et donc peut-être si on parle d'impérialisme, il faut vraiment le nuancer par l'existence d'un véritable tropisme d'un pays qui n'a peut-être pas forcément les moyens, je dirais, militaires et économiques d'assurer un empire, mais qui a les moyens, en revanche, de faire de l'influence.
Tout à fait. Ça, c'est la différence. En fait, c'est ce qui crée la spécificité. Alors, bon, là encore, il faut se méfier de l'essentialisation, puisque ça évolue, et vous avez parlé des mandats. Pendant le mandat français, la France bascule dans une forme d'impérialisme très claire. Hein. Mais c'est vrai qu'au XIXe siècle, la diplomatie française se construit finalement entre les Russes et les Britanniques, qui, eux, ont des velléités impérialistes très claires. Les Russes dans les Balkans, ça se matérialise.
En Bulgarie, ils descendent clairement le long de la mer Noire pour essayer d'atteindre Constantinople par la terre.
Voilà, et ils le font au nom du panslavisme, qui est la réunion de tous les Slaves, y compris des Slaves du Sud, et au nom de l'orthodoxie. Les Britanniques, il y a aussi une forme d'impérialisme, parce que dans l'impérialisme, il y a une dimension territoriale, et qui se matérialise par prise de possession de l'Égypte en 1882.
D'où il taille des croupières aux Français quand même, parce qu'on était assez présents.
Exactement.
En 1882, on se fait quand même un peu éjecter d'Égypte. On va y rester d'ailleurs, on va y rester d'une autre façon, plutôt par la culture.
Voilà, c'est ça. On y reste par la culture, par les écoles, par les missions.
La langue.
Par la langue. Alors, il y a différents leviers d'influence en Égypte. Hein. Vous avez les missions religieuses. Il y a également l'Alliance française qui est créée un an après, en 1883, qui permet le développement des écoles et qui s'adresse à un public, alors souvent copte catholique, qui va être très réceptif à la francophonie. Et c'est vrai que les Britanniques...
Comme les Maronites, d'ailleurs.
Comme les Maronites au Liban.
Au Liban, oui.
Exactement. Les Britanniques ont progressivement noyauté l'Égypte pour s'en emparer, puisque initialement, l'Égypte, dans la première moitié du 19e siècle, alors c'était pas vraiment de l'impérialisme, parce que c'était, si vous voulez, il n'y avait pas une volonté politique gouvernementale, c'était souvent l'affaire d'individus. Différents individus étaient dans l'entourage de Mehmet Ali, qui était le grand sultan égyptien de la première moitié du 19e siècle. Et ces techniciens, souvent saint-simoniens, ont contribué à réformer et à moderniser l'Égypte.
Un grand ami de la France, d'ailleurs, ce Mehmet Ali.
Un grand ami de la France, vraiment.
Il faut rappeler aux Français que c'est lui qui donne aux Français l'obélisque de la Concorde, voilà. que Champollion d'ailleurs avait repéré lui-même en Égypte et qu'il avait et donc il n'aura pas vu l'érection en 1836 à Paris, mais dont il avait détecté l'existence et ensuite bon, c'est une histoire extraordinaire que l'arrivée de cet obélisque. En tout cas, c'est un cadeau du sultan. D'ailleurs, petite anecdote, la France a fait elle aussi un cadeau magnifique à Mehmet Ali sous forme d'une d'une horloge qui avait été installée, une horloge splendide qui avait été installée à la citadelle du Caire. Mmh. Et qui d'ailleurs existe toujours.
Tout à fait, tout à fait. Hein. C'est vraiment pour matérialiser cette amitié. C'est Louis-Philippe hein, qui... Alors bon, après, on peut discuter quelle était la plus grande valeur entre l'obélisque et l'horloge. Mais c'est vrai qu'on doit à Mehmet Ali cela. Et Mehmet Ali est grand ami de la France, à tel point que certains même veulent, imagine, un remplacement du sultan ottoman par celui qui est normalement son vassal, c'est le donc parce que Mehmet Ali est pacha d'Égypte et c'est un gouverneur ottoman, alors qui s'émancie progressivement de l'empire ottoman, mais qui nominalement normalement fait partie de l'empire ottoman. Ensuite, c'est le percement du canal de Suez qui se fait sous influence française, sous les
Ferdinand de Lesseps, l'ingénieur qui d'ailleurs est un cousin de l'impératrice Eugénie, je crois.
Exactement, hein, qui est un cousin d'Eugénie. Et ce percement du canal de Suez, qui est avec l'inauguration qui a lieu en 1869, qui se fait en grande pompe, Eugénie justement va à Suez, elle est présente, c'est un petit peu la star de la cérémonie. On joue, ça se fait vraiment avec des drapeaux tricolores, on joue Aïda de Verdi. on peut dire que c'est l'un des apogées de l'influence à la fois économique et culturelle française en Égypte. Mais progressivement, les Britanniques, qui sont plutôt rétifs au départ au percement du canal de Suez, parce qu'ils estiment que, justement, ça va permettre aux Français de couper la route, là encore, comme l'avait fait Bonaparte, de couper la route des Indes. Les Britanniques vont progressivement noyauter la compagnie du canal de Suez, vont être de plus en plus influents par leurs capitaux et vont finir, finalement, par être beaucoup plus influents dans toute l'Égypte à la fin de la décennie 1870.
Oui, puisque les Britanniques, finalement, qui en 1882 donc, vont prendre le contrôle de l'Égypte, c'est-à-dire 13 ans après le percement du canal de Suez, donc on menait un travail patient pour finalement contrôler cet isthme de Suez, qui est évidemment capital pour eux, puisque c'est la veine jugulaire de leur empire ultramarin vers les Indes, hein, vers l'empire des Indes. Donc voilà. Et donc la France est un peu le petit poussé finalement dans cette histoire, non? C'est un petit poussé, mais un petit poussé assez costaud quand même, qui a quand même des ambitions et qui de temps en temps fait des réussit d'assez jolis coups, non?
Oui, tout à fait. C'est le rôle de la France, c'est d'offrir finalement une troisième voie. Alors, en effet, parce que la France s'aperçoit que finalement, il n'y a pas forcément, pour reprendre l'expression que vous avez utilisée tout à l'heure, il n'y a pas forcément un hard power aussi prononcé que celui des Britanniques et des Russes. Donc, on joue la carte du soft power, de l'influence culturelle. Néanmoins, il y a, à partir de la période mandataire, une volonté de plus en plus marquée de transformer cette politique d'influence en impérialisme. Ça se voit très, très clairement. Alors que le mandat sur la Syrie et le Liban s'inscrit à l'origine hein, dans le droit international. C'est-à-dire c'est un mandat de classe A. Qu'est-ce que c'est qu'un mandat de classe A? C'est un mandat qui est temporaire sur les territoires. On cherche à moderniser ces territoires. Et le but, hein, c'est d'arriver à l'indépendance au bout de quelques années. Ce que font les Britanniques en Irak, par exemple. L'Irak devient indépendante en 1932. Mais les Français attendent...
Les Français s'accrochent.
Ils s'accrochent. Ils s'accrochent au Liban et à la Syrie. Ça finit d'ailleurs pas très bien, hein, en 1946, hein, où ils partent... 46. Hein, c'est 46 que les troupes françaises se retirent définitivement. En 1945, un an plus tôt, il y a le bombardement de Damas, car il y a un soulèvement à partir, en effet, vous avez raison, de 1943 en Syrie. Le bombardement de Damas qui fait de nombreuses victimes hein, du côté de la population. Et les Français... finalement, transforme cette notion de mandat en forme de protectorat tel qu'on peut le voir au Maroc et en Tunisie. Le Liban et la Syrie sont, dans l'entre-deux-guerres, insérés progressivement dans un imaginaire colonial. À la fameuse exposition de Vincennes, hein, l'exposition coloniale...
De 1931.
Il y a un pavillon, et c'est l'un d'ailleurs des grands pavillons des grands de l'exposition, il y a un pavillon consacré à la Syrie et au Liban avec une reproduction du palais d'Azem à Damas dans un style alors néo-mauresque, hein, inspiré de l'orientalisme, un orientalisme architectural qu'on se réapproprie. Et donc la Syrie et le Liban sont vraiment véritablement insérés dans une politique coloniale de plus en plus globale. Et les Syriens eux-mêmes, les nationalistes syriens, le perçoivent. C'est-à-dire que certains nationalistes vont lier leur combat, qui est un combat d'émancipation vis-à-vis de la France, à le combat d'autres colonies. Par exemple, Shakib Arslan, qui est l'un des grands nationalistes syriens, qui est un émir druze, donc la communauté druze, hein, qui peuple le Liban, qui est une dissidence, hein, de l'islam. Shakib Arslan développe un nationalisme syrien et en même temps défend les velléités nationalistes, par exemple des Algériens de Messali Hadj, dans l'entre-deux-guerres. Donc là, c'est peut-être le moment, ce moment de mandataire où...
il y a une vraie tentation impériale.
Il y a une vraie tentation impériale et c'est peut-être le moment où l'histoire des relations entre la France et l'Orient rejoint le plus une histoire impérialiste, une histoire des colonies qui était quand même un petit peu, qui c'était un peu avec laquelle la France en Orient s'était un petit peu séparée au 19e siècle.
Mais alors, si on revient un petit peu en arrière, là, si on excepte à l'exception donc de cette période mandataire où là on a un véritable exemple de colonialisme français en Orient, même l'essentiel de l'histoire, c'est plutôt celle d'un attrait réciproque, peut-être d'une. Alors, est-ce qu'il y a une vision un peu romantique, un peu et peut-être un peu trop romantique du lien de la France avec l'Orient, véhiculé par tout cet héritage culturel d'un attrait qui est très ancien, hein. On pense, je vous ai parlé de Louis XIV, on a à l'époque de Louis XIV ce qu'on appelle les turqueries, c'est-à-dire donc tout cet attrait pour le vêtement, les étoffes, la musique, il y a la fameuse marche des Turcs dans Lully, dans le Bourgeois Gentilhomme. Donc voilà, donc cet attrait un peu pour un imaginaire, un folklore presque oriental. Ensuite, les voyages en Orient où les Français qui découvrent les langueurs de l'Orient, les femmes, les paysages, voilà, tout un mode de vie qu'on ignore en Europe, des produits qu'on ne connaît pas. Voilà, bon, tout ça évidemment alimente des fantasmes, un imaginaire, mais aussi un commerce. Donc tout ça est très important. Alors est-ce qu'il faut beaucoup insister sur cet attrait? Est-ce qu'on a tendance à le peindre sous des couleurs trop romantiques, ou est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque chose d'assez authentique dans cette voilà de cette fascination un peu séculaire pour l'Orient depuis les croisades, je dirais, parce que les croisades, évidemment, il y a un côté très violent, mais il y a aussi une véritable accoutumance à ce qu'était l'Orient quand même, hein, les royaumes francs de Jérusalem, enfin pendant des décennies finalement, des Français s'acclimatent à l'Orient, ils font souche, certains d'ailleurs. Il y a aujourd'hui en Orient des gens qui sont d'ascendance franque, hein, chez les Palestiniens, chez les Libanais, voilà. Donc il y a quand même une très très vieille histoire.
C'est une très très vieille histoire. Alors c'est vrai, vous avez tout à fait raison. Cette fascination pour l'Orient, hein, remonte à très loin. À la fin du XVIIe siècle et au début du XVIIIe siècle, par exemple, on traduit Les Mille et Une Nuits, et Les Mille et Une Nuits imprègnent l'imaginaire populaire au cours de cette période-là. Ensuite, au XIXe siècle, hein, il faut évoquer toute la peinture orientaliste. Alors, peinture orientaliste qui n'est pas forcément en prise complètement avec la réalité, c'est-à-dire que les peintres reconstruisent en grande partie un Orient qui est rêvé. Les femmes dans les harems sont souvent d'ailleurs des femmes européennes, hein, ce ne sont pas des femmes orientales. La violence aussi, souvent, qui est un thème récurrent, on peut penser à la mort de Sardanapale, le célèbre tableau d'Eugène de la Croix. La violence est souvent ritualisée, esthétisée. Mais il y a un mélange de fascination et de rêverie pour cet Orient, qui se matérialise également dans les récits de voyage, les récits des pèlerins en direction de la Terre Sainte. Et le plus grand récit, en quelque sorte, de pèlerin, c'est celui de Chateaubriand.
L'itinéraire de Paris à Jérusalem.
L'itinéraire de Paris à Jérusalem, publié en 1811, dans lequel, finalement, il ritualise véritablement le voyage en Orient, avec pour point final, point d'orgue, la Terre Sainte et qui est finalement la finalité de son voyage. Chateaubriand qui montre également que, et c'est pour ça qu'on ne peut pas dissocier cela d'un contexte français, qui montre que la Terre Sainte et les lieux saints sont mal entretenus, notamment le Saint-Sépulcre. Il a cette très belle formule où il montre que la Terre Sainte est un désert qui respire les épouvantements de la mort. Et pour lui, cette mort, c'est le reflet de la mort, selon lui, du christianisme depuis la Révolution française et la déchristianisation. Et pour lui, l'enjeu que doit avoir la politique étrangère, ça doit être avant tout de protéger, de sauvegarder les lieux saints. Donc on ne peut pas dissocier, et ça de ce point de vue-là, des auteurs comme Edward Said avaient vu tout à fait juste, on ne peut pas dissocier la politique en Orient de toute cette batterie de représentations qui sont en effet de la peinture, l'imaginaire populaire également, hein. On a parlé de la guerre de Crimée, mais par exemple, hein, il y a des images d'Épinal qui représentent, durant la guerre de Crimée, hein, cette vision qu'ont les soldats de l'Orient. Alors, ce qu'on observe quand même durant le XIXe siècle, c'est que progressivement, ce rêve d'Orient, de l'Orient ancien, de l'Orient... turc, voilà, musulman, cette vision devient une vision de plus en plus réaliste et désenchantée. On le voit dans la peinture, avec l'avènement de peintres tels que Jean-Léon Gérôme, par exemple, qui a une vision très ethnographique, et là, pour le coup, très réaliste. C'est un orientalisme très réaliste. On le voit également dans les récits de voyage. Par exemple, quand on prend des voyageurs comme Pierre Loti, la description qu'il fait de Constantinople est très différente de la description que faisait Chateaubriand, qui avait une vision assez irénique de Constantinople, que faisait Lamartine.
Alors que, mais pourtant, Loti est très pro-turc. Hein.
Alors, Loti est très pro-turc, mais ce qu'explique Loti, c'est que...
Son roman Asiadé, notamment.
Asiadé, voilà. Asiadé, qui est le roman, alors qui est en partie basé sur une histoire personnelle, d'une histoire d'amour qu'il a eue avec une jeune circassienne, hein, et il en tire un roman en 1879, et donc, notamment ce qu'il montre dans Asiadé, c'est que l'Orient ancien, l'Orient des rêves, l'Orient des orientalistes est en train de disparaître au bénéfice d'une européanisation. Voilà. D'une européanisation par l'avènement de la navigation à vapeur, par l'avènement du chemin de fer et par la destruction certains quartiers.
Il trouve le Bosphore très pollué, non ?
Il trouve le Bosphore très pollué. Il se balade dans Péra, qui est encore aujourd'hui, hein, le quartier européen, d'Istanbul, avec de grandes artères, de grands boulevards de type haussmannien, et il trouve Péra désespérant, d'une platitude désespérante.
Alors que lui cherche l'exotisme.
Et lui cherche l'exotisme, et il va se réfugier dans le quartier du Bazar, hein, le Istanbul, hein, qui est le quartier turc, proprement dit, avec ses petites ruelles, avec ses dédales, avec ses escaliers, qui est le quartier au sud de la Corne d'Or.
On va en parler parce que Loti, vous savez que c'est l'année Loti, l'année prochaine.
Tout à fait, hein, ouais.
Le centième anniversaire de la mort de Pierre Loti donc la ville de Rochefort, mais pas seulement elle, donc va fêter ce personnage, cet officier de marine, Julien Viau, qui, donc, dont les voyages ont donné lieu à énormément de romans. Mais en effet, il y a un Loti oriental, hein, dont il faut parler. Alors, le nombre d'écrivains français marqués par l'Orient, c'est énorme. Hein. Nerval, Lamartine. Victor Hugo, Les Orientales, un de ses recueils les plus fameux, Flaubert avec son voyage en Orient, on pourrait allonger la liste. Il y a quand même, voilà, Chateaubriand, vous l'avez dit, tout le 19e siècle est parsemé de ces fragrances de l'Orient, les peintres, les musiques aussi, les compositeurs qui sont inspirés par des thèmes orientaux. Alors voilà, donc c'est quand même, ça prend, tout ça prend beaucoup de place finalement dans l'imaginaire français.
Oui, tout à fait. Alors, les récits de voyage contribuent à populariser l'Orient. Alors, récits de voyage ou recueil de poésie, vous avez parlé d'Hugo et des Orientales. Sachant qu'Hugo n'est jamais allé en Orient. Tout ce que connaît Hugo, finalement, de l'Orient, entre guillemets, c'est un peu indirectement, et c'est par son voyage en Andalousie qu'il a effectué, où, voilà, il en tire une certaine couleur, mais bon, ce n'est pas le Proche-Orient. Mais Victor Hugo, c'est vrai, à la fin de la guerre d'indépendance grecque, dans un contexte bien précis, qui est celui du philénisme, développe, hein, là encore, cette idée, finalement, alors déjà l'idée qu'il faut aller sauver les Grecs. L'un de ses poèmes, hein, qui est les plus connus, hein, du recueil Enthousiasme, commence ainsi. En Grèce, en route, il faut partir. Donc ça témoigne un peu là, tout le lyrisme romantique.
Il a 25 ans, et puis la cause des jeunes de 25 ans en France à l'époque, c'est effectivement soutenir les Grecs contre les Ottomans. Hein.
C'est ça, c'est soutenir les Grecs contre les Ottomans, ce qui ne correspond pas pour le coup. Et là, il y a un hiatus entre cet enthousiasme des jeunes, alors qu'ils peuvent être libéraux, mais qui peuvent être aussi, pour beaucoup, monarchistes et même monarchistes ultra sous la Restauration, entre cet enthousiasme-là et la politique étrangère française, qui était plutôt une politique d'alliance
avec la porte.
Avec la porte, voilà. D'autant plus que la Grèce, on ne sait pas trop ce que veulent les indépendantistes grecs, ont-ils des liens avec les autres mouvements libéraux en Europe,
hein. Ils sont soutenus par les Anglais aussi.
Ils sont soutenus également par les Anglais, on peut penser à Byron. Donc, il y a une relative réticence
des pouvoirs publics.
Des pouvoirs publics. Mais ils finissent sous l'influence... de la mobilisation très forte de l'opinion publique, et c'est la première fois, hein, durant cette guerre d'indépendance grecque, qu'on voit une mobilisation qui entraîne un basculement du gouvernement vers une intervention, alors une intervention qui se fait avec les Britanniques et l'Égypte, contre la Sublime Porte pour les indépendantistes grecs.
Alors il y a plein d'aspects vraiment intéressants dans la présence française et donc en Orient. Il y a par exemple, vous avez évoqué la protection des chrétiens d'Orient. C'est une constante quand même depuis les croisades, hein, jusqu'à. Alors il y a notamment une expédition en 1860 faite par Napoléon III où il y a eu des massacres épouvantables commis contre les chrétiens par les Druzes. Et là la France va se mobiliser. L'Empire ottoman va essayer de rétablir l'ordre, mais les Français considèrent qu'il faut aller se porter au secours de ces chrétiens maronites. Maronites et pas seulement, je crois. Donc, en quoi est-ce que cette expédition a durablement marqué finalement les relations entre la France et le Liban?
Oui, tout à fait, vous avez raison. Pendant longtemps, on a cru que les relations entre la France et le Liban étaient plus anciennes, mais en fait, elles remontent principalement au 19e siècle. Elles sont progressives au 19e siècle. Alors, elles se matérialisent d'abord par les missions lazaristes, hein, au Liban sous la monarchie de Juillet. Et puis, vous avez raison, il y a des tensions croissantes entre les maronites et les druzes, alors qu'ils ont différentes causes, des causes foncières, des causes sociales, qui se matérialisent par des différents affrontements, hein, à partir de 1840 et par les massacres de 1860. Massacres dont sont victimes les maronites, mais aussi des chrétiens orthodoxes à Damas. Et ce sont ces massacres de Damas, hein, qui font plus de 10 000 morts. Hein,
et que Abdelkader, notre ancien ennemi en Égypte, va interrompre.
Hein. Exactement. Abdelkader qui sert d'intermédiaire, hein, qui essaie de sauver le plus de chrétiens, alors qu'il a été, qui a capitulé en 1847. Hein,
en Algérie.
En Algérie. Et puis qui a été emprisonné en France.
Il a été emprisonné ici au château de Pau.
À Pau, Amboise également. Il a été ensuite libéré contre une rançon par Napoléon III. Il s'est installé d'abord en Anatolie, ensuite en Syrie. Et il sert un petit peu de protecteur aux chrétiens d'Orient. Et Abdelkader va devenir, à cette occasion de l'expédition organisée par Napoléon III au Liban, cette expédition de protection des maronites, il va devenir finalement, aux yeux de certains publicistes, comme un possible recours également pour créer un royaume arabe. C'est à ce moment-là que l'idée qui fait partie, hein, de ce...
Alors
ça,
c'est la grande idée de Napoléon III, c'est le royaume arabe.
Voilà, c'est le royaume arabe. Alors qui est une idée, là encore, un peu vaseuse, parce que c'est une idée...
que les Anglais ont eu aussi, alors à un moment donné, les Anglais ont eu la même idée, un peu plus tard. Mais...
Notamment après la Première Guerre mondiale, après, avec Laurence d'Arabie, voilà.
Laurence d'Arabie. Mais alors les Français l'ont eu déjà, cette idée.
Cette idée, ils l'ont déjà. Ils l'ont déjà, et...
Alors, ça veut dire quoi, en fait, un royaume arabe dans l'esprit de Napoléon III?
En gros, ça serait créer un royaume indépendant de l'Empire ottoman et peuplé...
Soutenu par la France ?
Soutenu par la France, un royaume allié, et peuplé par des Arabes. Donc, en fait, tout ce qui...
Donc, pas de Turcs, pas de Persans.
C'est ça, pas de Turcs, pas de Persans. Donc, tout ce qui concerne, en fait, le Liban, la Syrie,
la Jordanie,
et l'Égypte et la Jordanie, voilà. Et ça peut descendre jusqu'à la péninsule arabique, mais à l'époque, c'est essentiellement...
Quelques tribus bédouines là, du sud de la Jordanie.
Voilà, c'est ça, le Sinaï, voilà, mais essentiellement, donc, c'est ça. Et Abdelkader devient... Alors, Napoléon III a bien conscience, même s'il éprouve de la sympathie pour l'entreprise, il a bien conscience que ce n'est pas réalisable, car bien sûr, il y aurait une opposition des Anglais, un royaume arabe allié à la France dans cette région-là. Là, ça met très clairement en péril les intérêts britanniques. Mais il y a toute une série de brochures écrites par des publicistes qui vont défendre cette idée d'un royaume arabe allié à la France avec à sa tête Abdelkader. Bon, dans les faits...
C'est vrai que c'est sur le papier, c'est magnifique.
Sur le papier, alors, c'est très séduisant d'un point de vue politique. Bon, dans les faits, les Anglais vont...
Tout faire pour s'aborder l'idée.
Vont s'aborder l'idée, vont reprendre la main. Et qu'est-ce qui va être créé à partir, à la fin de cette crise libanaise en 1861 ? La Sublime Porte va reprendre la main, va mettre en place un gouverneur qui va administrer le Liban, un gouverneur chrétien. Cette administration se fera donc sur le Liban, permettre provisoirement à l'Empire ottoman de reprendre la main. Donc vous avez tout à fait raison, hein, c'est un moment important, 1861, car c'est à ce moment-là qu'il y a un lien particulier qui se tisse entre les Français et le Liban. Et c'est à ce moment-là que le Liban devient en quelque sorte la porte d'entrée de l'influence française en Orient.
Alors on l'a vu il y a pas si longtemps lors de l'explosion du port de Beyrouth en 2020. Emmanuel Macron s'est rendu au Liban. Il a fait des grands discours d'amitié aux Libanais. Il a essayé aussi de mettre je dirais la classe politique libanaise devant ses responsabilités. Donc d'une façon qui a été perçue par certains comme un peu interventionniste sur la politique libanaise, mais enfin ça montrait bien quand même à quel point la question libanaise était sensible en France. Et par ailleurs, donc on n'a pas évoqué parce que mais c'est dans votre livre, c'est quand même que tous les présidents Emmanuel Macron mais tous ses prédécesseurs et depuis général de Gaulle ont une politique arabe, ont une politique au Levant. Alors avec des fluctuations plus ou moins de succès, ça commence avec le général de Gaulle et la politique arabe du général de Gaulle. Et puis ça se poursuit avec Mitterrand, Sarkozy, Hollande, voilà, Pompidou, Giscard. Enfin, je les cite dans le désordre. Qui tous évidemment ont des objectifs dans la région. Ça n'a jamais lâché les Français, hein, cette idée que on a un rôle à jouer en Orient, un rôle spécifique, des intérêts, et puis qu'il faut y consacrer de l'énergie, de l'argent, de l'influence, parce que il y a une partie du sort de la France qui se joue là-bas, hein, à la fois pour des questions de puissance et des questions aussi de politique intérieure.
Tout à fait. Cette idée de la politique arabe, en fait, est une idée, en effet, qui remonte principalement, c'est ce que j'essaie d'expliquer dans le livre.
Pardon, excusez-moi.
Il n'y a pas réellement de politique arabe gaulienne avant la guerre des Six Jours, en 1967, où là, il y a très clairement un basculement. Alors qu'auparavant, bon, il y avait la nécessité pour De Gaulle de s'allier à nouveau avec les pays arabes, avec la Ligue arabe, puisque les relations avec les pays arabes avaient été entachées, notamment par la guerre d'Algérie, et cette restauration des liens, cette normalisation des liens n'est que très progressive au cours de la décennie 1960, et d'autant plus que la France était alliée à Israël, et c'est le cas... jusqu'en 1967, hein, la France fournit des avions, des armes à Israël.
Il est clair que, par exemple, que l'expédition de Suez en 1956, c'est une expédition franco-britannique et israélienne. Hein.
Exactement, exactement. Ensuite, hein, la France continue à fournir des Mirages à Israël, hein, jusqu'en 1967. En 1967, la prise de position de De Gaulle dans la guerre des Six Jours, pour que finalement, contre l'agression d'Israël, l'agression territoriale d'Israël, dans sa fameuse conférence, hein, qui a fait beaucoup gloser.
Peuple juif sûr de lui et dominateur.
Voilà, sûr de lui-même et dominateur, qui a fait gloser beaucoup de commentateurs. Bon, c'est une prise de position un peu complètement à rebours de son opinion publique, mais aussi de la politique qu'il avait depuis plusieurs années. Et c'est là, en effet, qu'on voit l'apparition d'une politique arabe originale, sur laquelle s'appuient les successeurs de De Gaulle, alors avec des nuances, avec beaucoup de nuances. C'est-à-dire que...
Bon, on se souvient par exemple de la visite de Kadhafi à Paris, sous Pompidou.
Exactement.
Voilà, oui. Par exemple.
Après la guerre du Kippour, hein, Kadhafi, hein, ce qui entraîne l'opposition d'une partie, notamment de militants sionistes, puisqu'on est dans le contexte donc, de la guerre du Kippour, quelques semaines après. Kadhafi, donc, avec une alliance donc, militaire qui est nouée avec Pompidou. Et puis ensuite Giscard. Giscard qui est le premier à recevoir l'Organisation de libération de la Palestine, donc Yasser Arafat, en 1974.
À une époque où l'OLP est en arrière-plan des preneurs d'otages et des terroristes.
Oui, exactement. Oui, l'OLP n'a pas encore rompu. Elle ne le fera qu'à la fin de la décennie 1980.
Avec le soutien au terrorisme.
C'est ça. Donc, là, très clairement, hein, c'est une continuité. On peut penser également à la déclaration de Venise, hein, en 1980, qui rappelle, donc sous l'impulsion, c'est une déclaration de 9 chefs d'État européens qui rappelle, sous l'impulsion de Giscard, le droit des Palestiniens à l'autodétermination. Et cela n'est pas remis en cause par François Mitterrand, alors que François Mitterrand se montrer
qui est pourtant très favorable à Israël,
exactement, hein. Favorable à Israël d'ailleurs.
L'un fait un grand voyage en 1982.
Voilà, l'un de ses premiers grands voyages, hein, c'est en 1982, c'est en Israël. Mais malgré tout, il continue cette politique. Alors, ce que je montre par rapport à François Mitterrand, c'est que on a beaucoup parlé de compromis gaulo-mitterrandien. Alors, du point de vue d'Israël, ce n'est pas faux. Mais il y a aussi des inflexions majeures sous François Mitterrand. Par exemple, l'idée davantage de s'aligner sur les États-Unis dans un certain nombre de domaines. Par exemple, la guerre du Golfe. La guerre du Golfe, très clairement, la France, là, suit plutôt les desiderata des États-Unis. Ce qu'on observe également dans les années 80, mais bon, ce n'est pas forcément lié au fait de François Mitterrand, mais c'est une perte d'influence de la France, notamment au Liban, avec l'émergence, hein, de concurrents que sont la Syrie et les États-Unis, ce qui pousse certains à réactiver cette idée, qui est un puissant moteur, hein, de la sauvegarde des chrétiens d'Orient. Ce qui pousse donc avec certains hommes politiques, on peut penser notamment à Dominique Baudis, à décrire des textes en soutien aux maronites, ce qui fait par exemple ce qui pousse certains à organiser des veillées de prière, hein, dans le contexte de la guerre civile au Liban dans les années 80. Donc cette idée de compromis gaulo-mitterrandien, bon, qui a été surtout formulé par les anciens conseillers de François Mitterrand. Le premier à employer cette formulation, c'est Hubert Védrine. Donc, on voit bien ce qu'il veut dire. Mais il y a quand même aussi des inflexions plus qu'un compromis. Le compromis, il est surtout, en fait, sur le conflit israélo-palestinien.
Alors, on arrive à la fin de cet entretien, Jean-François Figeac. Peut-être une dernière question, quand même, sur notre actualité. La question d'Orient dont on parle au fil des siècles, elle se pose toujours, finalement. Il y a toujours une question d'Orient, mais je dirais qu'elle concerne les Français aujourd'hui dans leur rapport à l'Orient, selon leurs origines, selon leurs convictions. Est-ce que là, on parle beaucoup de France fracturée aujourd'hui. Est-ce que les fractures de la France sont en partie, à vos yeux, liées à la question d'Orient au sens très large, hein. Bon, il y a les fractures de la guerre d'Algérie, avec le conflit entre les Algériens de souche et puis les descendants de Harkis, les descendants de Pieds Noirs. Mais si on se reporte plutôt plus à l'est, il y a le conflit israélo-palestinien. Donc, avec le conflit entre les gens qui se sentent plus proches d'Israël et ceux qui se sentent plus proches des Palestiniens, ou qui prennent fait et cause pour les Palestiniens, donc, et qui prennent le territoire français un peu comme terrain pour régler des comptes. Voilà. Est-ce que aujourd'hui la question d'Orient est vraiment une question franco-française, et dans quelle mesure, à vos yeux?
Oui, vous avez tout à fait raison. Ce qu'on observe depuis les années 60-70, en fait, depuis le conflit israélo-palestinien, c'est une politisation croissante du Proche-Orient dans la société française. Alors, qui pendant longtemps s'est matérialisée par, finalement, l'importation du conflit israélo-palestinien de la part des acteurs mêmes de ce conflit. Ce qu'on observe depuis plusieurs décennies maintenant, depuis deux décennies principalement, c'est qu'il y a une volonté de la part de Français, qui n'ont pas forcément été en Orient, de reproduire ces affrontements-là. Ça se matérialise par l'antisémitisme dans les banlieues, dont on qu'on peut percevoir, certains observateurs ont perçu. Ça se matérialise également par le tropisme hein, de certains pour le terrorisme et pour Daesh. Hein. La question, bien sûr, d'actualité, avec le rapatriement des familles de ceux qui sont allés combattre pour Daesh. Donc oui, il y a des liens de plus en plus clairs, des liens qui se matérialisent aussi dans le monde politique. C'est-à-dire qu'il y a la diplomatie française est au cœur de l'espace public, et notamment la diplomatie en direction des pays du Golfe. Là encore...
On va bientôt voir la Coupe du monde de football au Qatar, voilà. qui fait l'objet de polémiques en France.
Hein. Exactement, de vives polémiques, et cette influence du Qatar en France, alors l'exemple le plus clinquant, c'est bien sûr le Paris Saint-Germain, mais il y a aussi toute une série d'investissements, hein, d'un point de vue mobilier, d'un point de vue religieux, qu'ont les Qataris dans les banlieues. Cette influence du Qatar, finalement, est sujette vraiment à un débat politique de plus en plus affirmé, qui remet en cause finalement une partie de notre orientation diplomatique depuis deux décennies, qui est en effet historique.
Oui, parce qu'il y avait l'influence française au Levant, mais aujourd'hui on peut parler aussi d'influence de ces grands États levantins orientaux sur la France et sur sa réalité actuelle.
Exactement.
Hein, dans un mouvement un mouvement inverse. Hein.
Exactement. Hein, il y a finalement maintenant une interpénétration. Alors la France continue à avoir de l'influence au Levant, mais cette influence n'est plus la même, très clairement. Il y a une influence de nouveaux acteurs, notamment des acteurs régionaux. On peut penser à l'Iran, on peut penser à la Turquie, on peut penser à l'Arabie Saoudite. Et dans le même temps, il y a une influence de plus en plus marquée de certains de ces acteurs, et notamment de ces acteurs régionaux,
sur la réalité française, hein, oui. sur la situation en France, voilà. Donc, alors on pourrait évidemment en parler longuement, mais donc voilà, on a passé cette heure ensemble. Donc je rappelle que donc Jean-François Figeac, vous êtes historien, que vous avez consacré votre premier livre à La France et l'Orient de Louis XV à Emmanuel Macron, voilà, donc une fresque très précise qui examine à la fois l'histoire de ces relations, mais aussi la façon dont l'opinion française a pu réagir, être influencée, se passionner, se disputer autour de la question d'Orient. Voilà. Donc ça reste, c'est à la fois très historique et très actuel. Ça a beaucoup de ramifications dans notre quotidien et dans notre actualité. Donc voilà, c'est un livre à lire aux éditions Passé Composé. Voilà. Donc merci beaucoup de cet entretien et bon vent à votre livre.
Merci
Jean-François Figeac.